inspiration.
Jeans humains multi-concessionnaires.
On vous a appris à marcher. On vous a appris à écrire et à compter. On vous a appris un métier. Mais on ne vous a jamais appris à perdre un être cher. Le complexe funéraire Carl Savard, c'est 02-49-49.
C'est rendu une tradition depuis plus de 5 ans. À tous les dimanches, 16h, sur les ondes du 92.5, vous participez au bingo, au super bingo. À chaque semaine, 4 000 $ à gagner avec nos 4 jeux. Le 2 lignes pour 500 $, le H aussi pour 500 $, la carte pleine pour 2 000 $ et la carte pleine consolation pour 1 000 $. Et en plus, avec l'inflation, ben, les cartes de bingo du 92.5 n'ont pas augmenté. Toujours à 5 $ dans nos nombreux dépositaires partout dans la région. Achetez-les rapidement et on se donne rendez-vous à tous les dimanches, 16h, pour le bingo du 92.5. 4 000 $ en prix! Bonne chance!
J'ai un conseil pour vous, mesdames. Votre conjoint part à la chasse, va prendre un verre avec ses chums et game le soir. Expliquez-lui le concept d'Airlousse. Par exemple, non seulement j'ai eu mon couvre-plancher, mais j'ai même fait habiller mes fenêtres. Et pendant que mon chum dépense ses Airlousse, moi je profite de ma déco. C'est simple, avec Vénitienne 83, il s'occupe de tout.
Vénitienne 83, chemin de la réserve, Chicoutimi.
L'émission Dans le vestiaire, une présentation de votre plus gros concessionnaire Chrysler Dodge Jeep au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Maintenant agrandi et rénové. 3311 Boulevard du Royaume, Jonquière.
92.5, ma radio d'ici.
Le 92.5 est équipé de la balado-diffusion pour vous permettre de réécouter quand vous le voulez des émissions ou bouts d'émissions. Rendez-vous sur le ckaj.org dans la section balado. Ne manquez plus les meilleurs moments de notre programmation. Tout y est. Rendez-vous sur le ckaj.org pour accéder à notre balado-diffusion. Bonne écoute à tous.
92.5, ma radio d'ici.
Pièce d'auto Sainte-Geneviève est fière de vous présenter l'émission Réveillez-vous. Pièce d'auto Sainte-Geneviève, une identité régionale depuis 28 ans. 4 points de vente au Saguenay-Lac-Saint-Jean avec un site 100% transactionnel. Pièce d'auto Sainte-Geneviève vous souhaite une bonne émission.
Pour partir la journée du bon pied, le 92.5 vous accompagne dans la bonne humeur et vous livre toute l'actualité. Avec Dominique Bolduc, Pat Bouchard et Éric Lavoie. Voici votre émission matinale.
À 7h02 en ce mercredi 11 septembre 2024, un auditeur tout à l'heure qui m'a mentionné, vous avez oublié un événement dans vos éphémérides le 11 septembre.
On n'a pas d'événement.
C'est parce qu'on ne parle plus d'événements, on parle seulement d'anniversaire maintenant dans nos éphémérides.
Il y a que trois débuts qui vont donner les indications de
l'année. Puis moi, la une journal, mais de toute façon, quand même, j'avais parlé la une du 11 septembre 2001. C'est arrivé durant la journée.
Ça. Exact.
Le matin, par exemple, je pourrais en parler, mais on l'a fait la dépense. On risque de parler d'autres choses.
Justement, pour voir qu'est-ce qu'il y a eu d'autre cette journée-là.
Ben oui, exactement. Je vous parlais de départ hier du côté des pertes, en fait, du côté des capitales de Québec. Capitales qui ont perdu, mais ils ont également perdu un joueur. Depuis déjà quelques années, depuis plusieurs années, il y a une entente entre les capitales et le pays de Cuba pour le prêt de joueurs. Durant la saison, des joueurs viennent. Il avait commencé avec un joueur il y a 12 d'années qui s'en venait, passer l'été, puis après ça, retourner à Cuba. L'entente, c'était ça, puis ça se faisait bien, puis les joueurs étaient heureux, puis là-bas, ils étaient accueillis en héros là, quand ils revenaient. T'sais. Et après ça, ben, ils ont Michel Laplante, qui est président des Capitales, dit, on pourrait en prendre deux, puis trois, puis quatre. Je pense que les grosses années, étaient 4 Cubains à venir.
Oh.
Des fois, ils n'arrivaient pas tout le temps, début d'année, t'sais, problème de visa. Et cette année, un joueur qui était de retour, Guillermo Garcia, lui, il avait toutes sortes de problèmes. Il a joué seulement 35 matchs parce qu'il n'avait pas son visa américain. Fait qu'il fallait seulement jouer les matchs à domicile.
Okay.
Et hier, avant de partir pour la Pennsylvanie, pour aller jouer à Washington, ce qu'on a appris, et ça a été appris, ça a été confirmé après la rencontre, c'est que le joueur de premier but, Guillermo Garcia, a pris la poudre d'escampette et s'est envolé pour la République dominicaine. Donc,
bizarre, ça. Ils n'ont pas des passeports. T'sais, déjà là, tu viens de Cuba, tu passes par Québec.
Oui, mais c'est ça l'affaire, c'est qu'il était déjà ici l'an passé. Ça fait que c'est là qu'il a probablement tout préparé ses affaires. Oui,
il a acheté des papiers pour ça, je suppose. Tu ne dois pas débarquer comme tu veux. Ils doivent connaître le stratagème.
Oui, mais non, mais tu sais, les aéroports ne sont pas avertis. Il y a un joueur cubain, il joue à Québec, il ne peut pas partir de Québec.
Dans les ordi,
les autres, tac, va-t'en. C'est souvent comme ça, là. C'est comme ça aussi souvent que les meurtriers.
C'est peut-être la première fois qu'il va là en plus, que ils connaissent pas l'individu.
Non, c'est Michael Lancette, journaliste, qui a sorti cette nouvelle hier soir. et qui a annoncé donc que Guillermo Garcia quittait les capitales de Québec pour se diriger vers la République dominicaine où le baseball est très populaire là-bas. N'avait pas donné de nouvelles. Raymond Boisvert, qui est un peu le responsable de ces joueurs cubains, parce que ceux qui sont allés au capital disent « C'est qui le petit monsieur blanc là, avec les cheveux blancs et tout? » C'est parce que lui, c'est le traducteur, en fait, okay, pour l'équipe. Et c'est lui qui s'occupe des gars. Puis il n'y avait pas eu de nouvelles de ce gars-là. Puis là, il avait écrit. Puis quand il a reçu un retour en disant « Regarde, je suis en sécurité. Je suis allé au port Santo Domingo de République Dominicaine. » Puis il dit « Regarde, il n'y a plus de problème. Regarde, je suis parti. » C'est tout ce qu'il a dit. Merci.
C'est pas la première fois que ça arrive.
C'est pas la première fois
que ça arrive. Souvent, ça est arrivé à Saguenay. Il y a des gens, les cyclistes qui étaient venus au critérium de Saguenay. Puis, whoop, on prend pas de scampette entre Québec et Saguenay ou entre les deux. Là, ouais. Ils sont partis. Ça arrive souvent.
Il y a quelques années, l'équipe cubaine qui était venue junior faire le tour des formations, ils étaient venus affronter les voyageurs. Puis, lorsqu'ils étaient rendus dans le coin de Montréal, whoop, il y en a deux qui ont disparu.
Puis, ils font ça parce que c'est très difficile de sortir du pays. Fait que quand ils ont la chance de sortir du pays, c'est là qu'ils en profitent. Parce que moi, j'ai un couple d'amis plus deux couples d'amis qui sont partis de Cuba. Les deux, ça a été très complexe. Il y en a un, le récent, c'est plus facile parce que maintenant, tu peux partir de Cuba, tu peux voyager. Fait qu'il est parti au Mexique puis il restait là. Mais l'autre, là, il est parti en radeau fait maison.
Hey boy!
Ça a pris un mois jusqu'au Panama. Après ça, à pied jusqu'au Mexique. En tout cas, une affaire de 3 mois, là. Il était pris au Mexique un mois, en tout cas, une affaire de fou, là. Réfugié, là, c'est carrément ça. Là, ça va bien, t'as Houston, il y a de l'argent, il y a un gros pick-up, tout va bien. Mais ça a été, il aurait pu en mourir. Ça n'a pas été facile. Hey. Ils m'ont envoyé une photo d'un moment donné du radeau qu'ils ont pris pour aller dans la mer jusqu'au Panama. J'ai dit, vous êtes malade. C'est une planche avec une trip tout croche. Vous êtes trois là-dessus.
Il faut dormir, il faut tenir le cap, il faut se guider.
Puis espérer qu'il fasse beau parce qu'en ce moment, dans le golfe du Mexique, il y a l'ouragan Francine, qui est un ouragan de catégorie 1 qui devrait atteindre les catégories 2.
On
peut l'aimer
Francine sur une planche de bois.
Non, c'est ça. On parle de 300 mm d'eau possible, c'est un pied. Et des vents de 145 km/h actuellement s'approchent tranquillement de la Louisiane et devraient se transformer en catégorie 2, donc l'ouragan Francine là, qui est à la veille de toucher terre. Et c'est Météo Chicoutimi, c'est Jimmy qui envoie ça. Jimmy Desbiens, Météo Chicoutimi qui envoie ça. Et également, il a réussi à localiser les deux avions qui sont en approche afin de prendre des mesures dans l'ouragan. Donc, tu es capable de voir avec Flight Radar 24. Là. Mm-hmm. Et avec ça, tu peux voir les deux avions spéciaux qui s'approchent de l'ouragan puis ils vont tourner pour prendre des images. Alors, l'ouragan Francine qui devait frapper la Louisiane au courant de la journée.
Les Dominicains puis les Cubains, est-ce que ça se déteste comme gang?
Non. Non, c'est dans le même type de peuple.
Ça devrait être des Espagnols.
Okay. Mais il n'y a pas
des pays. Il y a même des réunions entre ces pays-là.
Il n'y a pas de haine entre chacun et l'autre.
Non, c'est entre Haïti et République dominicaine maintenant, là. Ouais. Parce que c'est le bordel en Haïti, puis je pense que ils ont même renvoyé des Haïtiens dans leur pays, puis entre les deux, ça passe pas.
Non. Okay.
Ouais, exactement. Non, c'est vrai dans ces pays. Sans dire qu'il y a des alliances, mais il y a des accords.
Ben, oui, un peu d'alliances, parce qu'il n'y a pas beaucoup de pays qui sont avec de ce type-là, avec communistes et tout ça, ça fait qu'ils font des alliances entre eux, là.
Tout à fait.
On parle de pollution lumineuse du côté du lac Saint-Jean. On dit « Fini le temps où tout type de lumière était admis n'importe où et sur le territoire ». Donc, on dit après les élus de la MRC Maria Chapdelaine, ce sont les élus Domaine du Roi qui ont entériné donc le projet, un projet de règlement pour lutter contre la pollution lumineuse. On dit que la lumière bleue sera désormais réglementée alors que les flux lumineux devront être dirigés vers le sol. Lentilles de lumière qui devront être plates et posséder un abat-jour pour camoufler la source. On dit que les lumières devront être éteintes au plus tard à 23 heures ou tamisées d'au moins 50% en dehors des heures d'ouverture. Un tout nouveau projet de serre qui devra donc être doté de rideaux occultants avec un minimum de 99% d'opacité. Évidemment, ça fait suite donc au serre toundra là, qui génère un halo lumineux qui est vu
mais
quasiment...
Mais qu'est-ce qu'ils vont faire, les serres?
Ben, quand on parle, là, on dit...
Une obligation de respecter ça, là. Mais ça se fait-tu?
Ben, on dit, tout nouveau projet de serre devrait être doté de rideaux occultants avec un minimum de 99% d'opacité, donc un rideau noir.
Mais les anciens projets, eux autres, sont-ils sujets?
Ben, ils doivent, évidemment...
C'est technique, là, ce que tu dis, là.
Ben, je sais que les serres toundra, ça a chialé, puis écoute, j'ai vu des photos, moi, de gens qui restaient très, 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 très loin de là. Tu voyais un gros halo comme un soleil.
Tu t'emmenais dans le parc de Chibougamau, puis tu le voyais, là. Hey. tu étais à 100 km, tu voyais de, parmi le nuage, le gros.
Je pense que tu peux comprendre ceux qui habitaient proche. Là, tu fermes les rideaux, mais il fait clair pareil dehors. C'est comme pas agréable là, la nuit.
Je pense que c'est un des gros défis des serres. C'est pas pour rien qu'ils cherchent des endroits le moins peuplés possible aussi.
Donc, la MRC mentionnait, dit, on ne veut pas seulement viser une seule entreprise. Donc, ils ont développé une vision territoriale pour limiter les impacts de la pollution lumineuse. On dit qu'avec une planification stratégique mettant l'emphase sur le développement durable et la carboneutralité, les élus de la MRC du domaine du Roi donc, devaient envoyer un message fort pour amenuiser les impacts de la pollution lumineuse. Puis, écoute, il y a des images là, du halo des serres toundra en pleine nuit, là. Montrer, Eric, c'est sur l'image, là. C'est assez spécial, là.
C'est fou,
ça. T'sais, ça ressemble vraiment à gros.
Ça a l'air d'une explosion. Ben, c'est on voit des explosions en Irak dans ce temps-là. C'était des lumières de même qu'on
les
voyait.
Les feux de BPC qu'il y avait eu, là, à Saint-Basile-le-Grand, ça ressemble pas mal à ça, là. Ça ressemble pas mal à ça. Alors, on dit que toutes les lumières déjà installées avant l'entrée en vigueur de la réglementation vont disposer d'un droit acquis. Donc, lors de rénovation, les entreprises devront se conformer à la réglementation. Donc, pour l'instant, ça va pour ceux qui sont déjà installés, mais si vous avez des travaux à faire, ben là, vous allez devoir remédier à la situation puis se conformer aux règles. Les municipalités devront également se conformer. On dit que ce n'était pas un réflexe pour tout le monde et les appels d'offres devront être revus pour tenir compte du règlement. Petit fait à noter, on dit que les résidences sont exclues de la réglementation parce qu'on dit que ça aurait été trop difficile à faire appliquer au niveau du résidentiel. Ça ne sert à rien de faire des règlements si on n'a pas les moyens de les faire respecter. Donc, il y a une période d'adaptation qui est à prévoir, alors que des formations vont être offertes aux inspecteurs municipaux pour qu'ils fassent respecter la réglementation. Si on parle d'infraction, quand ça va être rendu à terme, on parle entre 400 et 5000 $ d'infraction qui pourraient être émises. Okay. On dit qu'il va falloir attendre encore quelques semaines avant l'entrée en vigueur du règlement, car là, il y a une consultation publique qui doit avoir lieu le 8 octobre, un avis de motion à la séance du Conseil de la MRC, qui va suivre la rencontre, qui va faire en sorte que le règlement va entrer en vigueur. C'est un mouvement qui avait été lancé par Caroline Lavoie, dénonçant le halo lumineux des serres toundra, donc qui se dit heureuse de cette annonce.
Elle a réussi son combat.
Ben, absolument, absolument. Il y a un autre combat du côté de la Terrière, encore une fois, là, Gazon Savard, qui est visé par un recours. Mais là, Gazon Savard, ils ont dit là, on a bien l'intention de se défendre.
Ben là, ils ont eu l'autorisation, entre autres, les résidents, de se mettre ensemble, de faire ce recours, de mettre à l'avant plan le recours, il va pouvoir avancer.
C'est qu'on mentionne qu'il y a du concassage, bruit de camion et tout ça. Là, on parle plus d'odeur et tout, mais là, de d'autres travaux qui semblent déranger les habitants autour. Alors, là, il y a un avis qui a été fait.
J'ai hâte de voir comment ils vont s'en sortir. Parce que,
ben, ça sera pas facile.
C'est pas 3-4 personnes qui se plaignent. C'est vraiment un quartier complet, là.
Oui. Oui, effectivement.
Ben, ça va être, il va falloir qu'ils s'entendent parce que tu peux pas déménager
non.
Une entreprise grosse comme
qui a la majorité des terrains.
Non, maintenant, il faut qu'ils fassent de l'argent, il faut qu'ils travaillent.
Et oui.
Je vais en parler, c'est quand même important parce qu'on sait que Jacques Pelletier va être candidat à la mairie de la prochaine élection qui va se faire.
Oui.
Il lance son programme aujourd'hui à partir de la maison chez eux. Fait qu'il évitait les médias. Je sais pas si nous, on y sera présents. On se doute, par exemple.
C'est aujourd'hui, plus, hein?
C'est aujourd'hui.
OK.
Des positions assez tranchées, diffusion, des trucs comme ça. Vous connaissez le personnage.
On l'avait reçu en studio. On l'avait reçu. Il avait lancé sa candidature.
Fait qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de programme. Mais disons, il lance son programme aujourd'hui dès 10h ce matin.
OK. Donc, on va suivre ça. Donc, de ce qu'on voit... Ben, j'imagine, ben, Julie Dufour va se représenter. On a une candidate.
C'est un peu.
Il y aura la chef de l'ERD. L'ERD. Pour l'instant, de Christine Basque, qui est la seule candidate actuellement à la chefferie de l'ERD. Donc, ça en fait deux. Jean-Marc Pelletier, ça en fait trois. Il y en a-tu d'autres qui ont confirmé?
Catherine,
peut-être, oui. Ouais, ben,
elle avait dit départ.
Parlé, ouais,
elle s'est jamais cachée de ça.
Ça en fait quatre. On aura quand même une lutte.
Il y en a d'autres qui vont apparaître.
Ah, il va y en avoir d'autres.
On a des hypothèses, mais on ne commencera pas à dire n'importe quoi pour dire n'importe quoi.
C'est sûr. Mais ce sera quand même une autre campagne intéressante.
Luc, le monde revient souvent avec Luc Boivin.
Il revient souvent.
Luc, pas prêt encore parce que ses trucs ne sont pas réglés aussi. Il est toujours avec la fromagerie. Il ne peut pas faire les deux, être à la fromagerie et être candidat à une mairie.
Quand tu es dans une business comme ça, une business familiale, il n'est pas tout seul là-dedans, mais il y a quand même des choses à suivre. Chacun a des choses à contrôler.
Et c'est une business de nourriture. Nourriture, c'est bien compliqué. Les variations de prix tout le temps. C'est toujours du
des négociations. Être à l'affût pour des contrats.
Être à l'affût de tout s'occuper de tout. C'est pas comme quelque chose que ça rentre, ça sort, c'est toujours la même affaire, toujours le même prix. Tu sais que ça s'en va comme ça. là, tu peux les laisser rouler, mais c'est trop complexe.
Faut pas oublier que la fromagerie n'était pas accessible par le rein pendant une grande
période. En plus.
L'été, ils ont perdu l'été. Les ventes ont carrément descendu.
Il a dû avoir des impacts. Tu me fais penser, je pense que tu voulais un peu donner l'exemple quand tu travaillais pour les biscuits Leclerc. C'est une run, on fabrique des biscuits, puis voilà, c'est fait, ça se fait comme tout seul.
Mais encore là, c'était la même chose. Ben, le prix des ingrédients, farine, ben là, voit, on en met moins là parce que lui est rendu cher. On change d'ingrédient parce que c'est trop cher. La farine arrive là. C'était beaucoup de...
Et surtout, avec le fromage, tu as le lait et tout, s'assurer que le lait est de bonne qualité, qu'il n'y a pas eu de bactéries dedans, la fabrication du fromage.
La sécurité alimentaire est très complexe dans une usine d'aliments, là. Le nettoyage, la façon que tes employés s'habillent, si et ça, s'il y a une contamination, c'est recommencer le nettoyage.
On voit les inspecteurs souvent aussi.
C'est pas pour rien quand vous allez dans une microbrasserie et que vous voyez les cuves, on jurerait que c'est neuf. Ben, ça n'a pas le choix d'être neuf. Tu peux pas avoir une saleté dessus. Faut pas que ça soit sale. Faut que ça soit pur pour qu'il n'y ait pas de bactéries, qu'il n'y ait pas de problème au niveau de l'alimentation.
Un rappel.
Tu veux pas un rappel parce que c'est des recettes qui sont faites à des 1000 énormes. Kilos.
Ben oui,
Si tu as une recette plus bonne, c'est des milliers de boîtes.
Tu perds des millions de dollars.
Dans les cuisines, le stainless steel, il y a toujours l'air neuf. Pourquoi? Ben, parce que c'est bien nettoyé, puis que c'est désinfecté, puis s'assurer qu'il n'y ait pas de problème là-dessus. Simplement. Mm-hmm. 7h16, on s'en va aux petites vites. Ah, ben, j'ai Régent Terrebonne qui s'informe au niveau des pommes. C'est le temps des pommes en plus. Ben, Régent Terrebonne, il a appelé à certains endroits.
Les petites vites de Jean-Claude Gélina. Une présentation de la boucherie Daniel et Rémy, rue de Lille, Chicoutimi. À la boucherie Daniel et Rémy, comme le dit Régent de Terrebonne, on travaille pas à cochon, mais on a du maudit bon porc.
Tu fais de la mécanique en soirée ou le week-end, peu importe le moment, Pièces d'auto Sainte-Geneviève, c'est le seul ouvert 7 jours sur 7 et jusqu'à 21h en semaine. Pièces d'auto Sainte-Geneviève, Alma, Jonquière, Chicoutimi-Nord et Labbé.
Bonjour à tous, ici Alain Plante. Le rendez-vous incontournable des amateurs de bonne musique, des travailleurs de nuit et des insomniaques, c'est Cargo Nuit 100% live, du mardi au vendredi de minuit à 6h. Du mardi au jeudi, toujours le meilleur de la pop et du rock, avec 45 minutes ultra musicales au début de chaque heure. Le vendredi, place à la Métrothèque, avec les plus gros succès des années 70 à 2000. Et de 5h à 6h, c'est Cargo au réveil, avec la meilleure musique du country, agrémentée de la météo, des sports et de la une des journaux et des sites web. Et vos demandes spéciales sont toujours les bienvenues au 88 82 92 50. Soyez au rendez-vous de Cargo Nuit 100% live, du mardi au vendredi dès minuit, seulement au 92.5, ma radio d'ici.
Quand on porte des prothèses dentaires depuis trop longtemps, Dominique, on peut se rendre compte que notre visage se transforme, que mastiquer peut-être devient plus difficile.
En fait, Annick, je dis toujours que c'est pas nécessaire d'attendre de perdre son dentier en soufflant sur les bougies de son gâteau d'anniversaire pour penser à le changer. Je vous dis ça avec humour, mais à titre de denturologiste, je vous invite sérieusement à faire attention à votre bouche, à la santé de vos gencives, à votre système digestif aussi. Tout a un lien. Attendez pas que vos prothèses soient trop usées.
À la clinique Mondenturo de Jonquière, la première consultation est gratuite et sans aucune obligation. N'hésitez pas à poser toutes vos questions.
Les sports avec Michel Tifo, une présentation de votre plus gros concessionnaire Chrysler, Dodge, Jeep au Saguenay-Lac-Saint-Jean, maintenant agrandi et rénové. L'Étoile Dodge, 3311 Boulevard du Royaume, Jonquière.
Chez l'Étoile Dodge de Jonquière, en septembre, c'est du jamais vu. On t'offre 15% sur nos fameux Ram 1500 DT 2024 tout le mois de septembre. Aussi, tu penses changer ton véhicule à essence pour l'électrique, on t'offre jusqu'à 16 000 $ de rabais sur notre superbe Dodge Hornet Hybride 2024 ou 169 $ par semaine. 48 mois, 0 $ comptant. En septembre, c'est du jamais vu chez... L'Étoile Dodge
Chrysler. Le sport, presque une religion, plus qu'une passion. Place au sport avec Michel Tifo.
Michel Tifo. Michel Tifo. Avec Michel, on va parler de patinage de vitesse ce matin.
Oui, c'est vrai, Marianne, qui est honorée.
Il y aura un bel honneur pour Marianne Saint-Gelais au Temple de la renommée.
Ben, c'était une journée mémorable hier pour nos patineurs et patineuses originaires de la région. Marianne Saint-Gelais, comme vous l'avez mentionné, les gars, elle sera intronisée au Temple de la renommée du patinage de vitesse Canada. En 11 saisons, Marianne Saint-Gelais, qui a participé aux Jeux olympiques, soit dit en passant, 114 médailles au total de sa carrière, dont 93 sur le circuit de la Coupe du monde. T'sais, quand tu es rendu au niveau mondial, tu gagnes des médailles, là. Parce que c'est l'une des meilleures dans ton sport. Également, Valérie Maltais, choisie athlète féminine de l'année parce qu'elle, elle est rendue en longue piste. Et Marc Gagnon, ancien patineur, qui est maintenant coach, qui est maintenant entraîneur, lui a été choisi l'entraîneur de l'année. Alors, on aura l'occasion d'en rediscuter dans le vestiaire cet après-midi. Au tennis à la Coupe Davis, le Canada qui a défait l'Argentine hier grâce aux victoires de Félix Auger-Aliassime et de Denis Shapovalov. Il y avait un match, je dis amical, de la CONCACAF, sauf que c'était un match rude entre le Canada et le Mexique. Il y a eu beaucoup de fautes, entre autres Mathieu Chouanière, notre Québécois, l'ancien du CF de Montréal, qui a même obtenu un carton jaune. Il a été remplacé dans le match. Un bon duel de gardien de but dans une partie qui était disputée à Dallas, dans un stade de 80 000 spectateurs. Il y avait seulement une trentaine de mille spectateurs. Alors, le Canada et le Mexique, finalement, ça s'est terminé 0-0. Le Canada, qui est 40e au monde, et le Mexique, 17e. Au baseball, les Phillies de Philadelphie ont gagné hier encore une fois Carl Schwarber, un coup de circuit à 434 pieds. C'était son 14e circuit comme premier frappeur de l'alignement. C'est un record. Trey Turner lui a ajouté deux circuits pour les Phillies de Philadelphie. Il a 4 points produits. Les Blue Jays l'emportent 6-2 devant les Mets. Davis Schneider, un triple de 2 points. Ernie Clemens, à 3 points comptés, le lanceur gagnant avec Chris Bassett, sa 10e victoire de la saison, n'a donné qu'un seul point en 5 coups sûrs. Du côté des lanceurs, puisqu'on en parle, Seth Lugo des Royals de Kansas City, il a blanchi les Yankees de New York pour remporter sa 16e victoire de la saison. 10 retraits au bâton, Kansas City qui l'emporte 5-0. Les Cubs qui ont marqué 5 points en 8e manche en route vers une victoire de 6-3 devant les Dodgers. Pete Crow Armstrong à 2 coups sûrs et 2 points produits. Victoire de Milwaukee 3-2 devant les Giants de San Francisco. William Contreras a réussi 3 coups sûrs. Victoire des Padres de San Diego. Ça s'est terminé 7-3 devant les Mariners de Seattle. Manny Machado a réussi un coup de circuit pour les Padres. Victoire des Orioles de Baltimore 5-3 contre les Red Sox de Boston. 2 circuits de Cedric Mullins. Dans la Ligue frontière, c'était la première partie de la finale. Et Washington a défait les Capitales de Québec hier 5-2. Ce soir, match numéro 2. On va en reparler dans le vestiaire. Il sera question de boxe. Serge Cloutier sera avec nous. On va revenir sur le patinage de vitesse. 15h30, c'est le rendez-vous des sportifs, mesdames, messieurs.
Merci beaucoup, Michel.
Bonne journée.
Très bonne journée. Dans quelques instants, on va discuter de tout sujet avec Justin Hervé, comme tous les mercredis maintenant, depuis le début de l'été. Changer un petit peu l'horaire, mais toujours très intéressant. Donc, Justin Hervé sera avec nous dans quelques instants. Tout juste avant, tiens, passez du jour, mon père.
Imaginez-vous dans l'avion et entendre ceci. Ici votre pilote. Je tiens à préciser qu'aujourd'hui, je suis en télétravail. Bon vol.
Ouais.
Ça risque d'arriver un jour. C'est ça qui est le pire.
Ah, oh boy. Mais le pilote automatique, hein. Puis, bon, salut, ciao. M'en va. Pas sûr.
Au Québec, c'est vrai qu'on s'endure pas. Quand c'est l'été, j'ai chaud. Quand c'est l'automne, j'ai frais ton gel. Là, faut se brancher. Ou encore mieux, s'isoler. Avant de geler, appelez Isolation Godin. Avec eux, c'est le confort à l'année.
Salut, ici Pat Bouchard. Je vous invite le dimanche 22 septembre prochain, 15h, à la chapelle Saint-Cyriac du lac Kénogami pour mon spectacle Pat Bouchard chante Georges Brassens. Vous êtes habitué de me voir dans des concerts d'une heure, mais là, cette fois, c'est un concert complet préparé spécialement pour la chapelle Saint-Cyriac. Les billets sont disponibles sur le site de la chapelle au chapellesaintcyriac.com ou encore directement sur place le jour du spectacle. Mais ça, c'est s'il en reste. Alors réservez dès maintenant au chapellesaintcyriac.com et je vous attends le dimanche 22 septembre prochain, 15h pour le spectacle Pat Bouchard chante Georges Brassens.
Spécial sur l'urine de mâle mature orignale de Chasseau-Magnac, 29,99 au lieu de 45$. Seulement chez Chassé-Pêche Chicoutimi, point autoroute.
Sur le bloc libéral, les coûts et les crimes augmentent. C'est assez. Je suis Pierre Poilievre. Je vais couper taxes et impôts, bâtir des logements, réparer le budget et stopper les crimes. C'est juste le gros bon sens.
Un message de Pierre Poilievre et les conservateurs de gros bon sens.
0% sur nos camions Sierra et Silverado. Oui, vous avez bien compris. Arnold GM s'assure que tu puisses être au volant des meilleures camionnettes sur le marché avec un taux de 0%. Juste à temps pour la chasse et l'hiver qui s'en vient. Ton camion, il est chez Arnold GM Jonquière.
André du Saguenay, bonjour.
Oui, est-ce que Jimmy est là, s'il vous plaît?
Coucou, c'est moi, André.
Oh, excuse, je t'avais pas reconnu. Hey, écoute, Jimmy, j'ai entendu parler à mon retour de vacances de votre impressionnant nombre de ventes de Ioniq 5 que vous avez fait au mois d'août. Wow, vous battez des records.
Incroyable, mon ami. Et c'est surtout pas terminé, car Hyundai vous offre le Kona en promotion à 99 $ par semaine, zéro comptant et électrique en plus. Fini l'essence.
Hey, tu dis moins de 100 $ par semaine, zéro comptant?
Exact, c'est du jamais vu pour un 2025 en plus.
Un 2025? Wow! Encore des records au mois de septembre, j'en suis persuadé, Jimmy.
Pour se démarquer, mon André, ça prend des bons prix, une bonne garantie, mais le plus important, le service.
Oui, chez Hyundai du Saguenay, vous l'avez le service.
C'est pour ça qu'on dit adhérer à plus. Boulevard René Lévesque, Jonquière.
92.5. On aura de belles journées ensoleillées aujourd'hui avec des maximums prévus à 21. Demain, alternance soleil et nuages, maximum de 25, humidex à 30. Alternance soleil et nuages, vendredi, maximum de 26. Soleil, samedi et dimanche, des maximums de 25 et 28. Et lundi, mardi, on parle de maximum de 25 aussi. On a 5 au Saguenay, ça a descendu au lac, on a 7 l'eau.
La radio d'ici. Dans Réveillez-vous, voici le point de vue de Ghislain Harvey.
Cours sur le top, pilon en arrière. Cours sur le top, pilon en arrière. Moi, je les ai cours sur le top, pilon en arrière. Moi, je les ai cours.
Il a probablement entendu notre chronique avec Catherine Morissette hier, où on parlait de cette fameuse coupe Longueuil, parce que ça fait partie de ses sujets ce matin. Ghislain Harvey, comment ça va?
Ça va très bien. Ça va très bien. Bien, c'est pour vous dire que coupe Longueuil, je pense pas que c'est un candidat, hein?
Non, non, ils vous, ont... non. Mais est-ce que vous l'avez déjà porté, par exemple?
Dieu, il a fait quelques têtes parfaites, et puis les autres, les ont mis des cheveux.
Ça veut dire les autres leur ont mis des coupettes jaunes.
Ben oui, ça ne m'inquiète pas beaucoup, mais moi, je pensais la coupe Longueuil. C'est vrai que c'est beau, là. Je ne peux pas dire que c'est pas beau, mais ça c'est vraiment pas destiné, je dirais à Catherine que... C'est pas pour moi. On va passer pour cette fois-là.
On va passer, oui, effectivement.
Il y a des beaux bateaux aujourd'hui encore, hein?
Oui, oui, absolument. Ben écoute, on a eu une très belle journée lundi avec 4 bateaux qui étaient dans la baie des AA. C'était très intéressant de voir ça. Et il y en a également aujourd'hui. Donc. Et en plus, il fait beau aujourd'hui, donc belle raison là, pour se déplacer. Mais, M. Harvey, je veux revenir sur ce débat qui a lieu hier entre Donald Trump et Kamala Harris. Premier débat entre les deux, le seul prévu, mais on aimerait peut-être en ajouter un d'ici les élections. Comment vous avez trouvé ça, vous?
Bien, écoutez, d'abord, la politique américaine, là, c'est incroyable. Combien ça prend de place dans l'histoire québécoise, dans la politique québécoise et canadienne. C'est imprévu, ça. On n'a pas vu ça depuis John Kennedy.
J'ai comme l'impression que les gens s'intéressent davantage à la politique américaine qu'à sa propre politique ici.
Je dirais que c'est à partir d'Obama même, avec un président noir.
C'est encore plus captivant qu'Obama, parce qu'il y a tout qu'un personnage. Trump,
ben,
tout
Donald Trump.
Ben moi, j'ai pris quelques notes hier, le débat, j'ai écouté, mais je n'ai pas écouté les commentateurs après, parce que commençait à être tard, dans le fond. Mais je trouve qu'en politique extérieure, particulièrement au niveau des guerres, là, la guerre en Ukraine et Russie, la guerre Gaza, je pense que Trump a eu l'avantage, facilement. Au niveau de la migration, ben, c'est toujours la même rengaine. C'est la rengaine qui a trop d'immigrants. On l'a un peu au Québec, mais moins acide que ce qui se passe aux que les propos qui se tiennent aux États-Unis. Mais c'est le problème aussi en Europe, vous avez vu, hein? En France, en Angleterre, en Italie. C'est un débat terrible, puis je pense là-dessus, Tom a dû gagner. Maintenant, au niveau de l'avortement, Mme Harris a été très forte. Hein? C'était top, ça. Au point de vue de la crédibilité, c'est très important. Premier débat pour Mme Harris, elle s'est très bien présentée, était très bien préparée. Mm-hmm. Et puis, je pense qu'elle a frappé Donald Trump directement dans la cible. Je ne sais pas si ce débat-là va changer les choses. Écoutez, au Québec, je parlais de ça à des amis dernièrement. les commentateurs au Québec, là, c'est 99,9% anti-Trump. Fait que, ce que les commentateurs disent, ce qu'on dit, nous autres aussi, puis ce que la population pense réellement, on verra les prochains sondages. Mais c'est une bataille. Il n'y avait plus de bataille, là. Depuis la dernière fois, depuis le dernier débat avec Joe Biden, il n'y avait plus de bataille. Trump s'enlignait directement à la présidence. Maintenant, là, il y a vraiment de bataille. Et puis, c'est intéressant. Est-ce qu'il va y avoir d'autres débats? Moi, je ne crois pas qu'il y ait d'autres débats, à moins que ce soit le débat Fox, parce que là, c'est à ABC. C'est un autre genre de poste de télévision. Mais probablement que Mme Harris ne voudra pas aller à Fox.
Non, j'imagine. Parce
que et à moins que Trump se prépare mieux, pas sûr qu'il va vouloir retourner, parce que
ça n'a pas mis lieu.
C'est le média de la droite américaine.
Oui, mais tu sais, on a bien vu hier, les Américains ont bien vu qu'à part dire des choses qui n'ont aucun sens, il n'y a pas beaucoup de politique. Là,
on n'a pas parlé beaucoup de politique hier. Mais tiens, parlons de politique.
On ne peut pas dire que le commentateur, l'intervieweur, là, il y avait un penchant à risque aussi. Là.
Ben, c'est sûr.
C'est subjectif. Il revenait toujours sur des propos que Trump avait tenus il y a 10, 12 ans, 15 ans. Mais en tout cas, c'est la politique américaine. C'est une politique, écoutez, on parle d'un gouvernement de 1000 milliards de dollars et on parle d'un gouvernement qui est actif dans le monde. Le gouvernement est la plus forte économie au monde. Et puis maintenant, il y a de la lutte avec l'économie chinoise.
Oui.
Et c'est important d'avoir un président ou une présidente qui soit compétente pour mener les destinées des citoyens américains.
Revenons ici avec la politique municipale. On a parlé tout à l'heure des candidats possibles à la mairie. Oui. On connaît M. Jacques Petit qui est là. Il y aura également le chef de l'ERD. Pour l'instant, c'est Mme Christine Basse qui est la seule. Julie Dufour risque de se représenter. Vous voulez parler de Mireille Jean? Est-ce que vous pensez que Mireille Jean va s'envoyer à la mairie? Elle l'a déjà fait contre Jean Tremblay. On lui a posé la question la semaine dernière lorsqu'on a discuté. Elle n'a pas fermé catégorique. La porte. Il n'y a pas de nom catégorique.
Ben, moi, je pense que Mme Jean doit avoir deux opportunités. N'oubliez pas que c'est une ancienne députée péquiste.
En plus.
Et PQ est en bonne position au niveau des sondages. Peut-être qu'elle a aussi l'idée de se représenter comme candidate du Parti québécois dans Chicoutimi. Maintenant, elle a été, au niveau municipal, elle a été élue conseillère municipale dans les occasions. Contre Jean Tremblay, ça n'avait pas fait une bonne figure. Jean Tremblay était trop fort à ce moment-là. Mme Jean, je ne sais pas, mais si Mme Jean se présente, puis là, vous venez me dire que Luc Boivin, il y a peut-être trop de travail à son entreprise.
Il ne s'affiche pas tout de suite.
Il y a trois, quatre candidats comme ça, savez-vous. C'est l'autoroute de la victoire pour Mme Dufour. Hein?
Mais c'est sûr que trop de candidats va diviser le vote et ça va donner l'avantage à eux, puis très souvent, celle déjà en place.
Définitivement. À moins qu'elle fasse des gaffes durant la campagne électorale comme Mme Néron a fait. Mme Néron se dirige vers la victoire, mais c'est elle qui a perdu. Elle a pris deux positions contraires à l'opinion de la population. On dirait qu'après le deuxième sondage, elle a bravé la population en disant, écoutez, quand je suis élu, moi, je le ferai la grosse arena de 90 millions. Mais ça part. Durant la campagne, il faut faire preuve de sagesse. Vous avez vu les deux candidats, malgré tout, là. Qu'on n'aime pas un, qu'on n'aime pas l'autre, là, il y avait quand même beaucoup de sagesse là-dedans. Là. Les propos ont été prudents. Il n'y a pas eu trop d'écarts de conduite. On est habitué à des grands écarts de conduite de la part de M. Trump. Une campagne électorale, ça peut se gagner ou ça peut se perdre.
Oui. Très rapidement.
Surtout se perdre durant la campagne.
Absolument.
Mais actuellement, là, vous nous parlez de 4-5 candidats. Écoutez, c'est sûr que Mme Dufour va être avantagée. Vous parlez du mandat de Mme Dufour. Là. Vous savez, j'ai cherché le synonyme de grue, là.
Oui.
Mais je sais que quelqu'un m'a écrit, oui, mais ça s'appelle grue. Je trouvais ça dur de dire une grue devant la télévision, devant la radio. Mais c'est parce qu'il y a une grue à Chicoutimi maintenant, directement pas loin du club de golf, là.
Ah oui?
Ça fait 10, oui. Puis c'est des grutiers qui travaillent, qui font fonctionner la grue. Mais vous savez une chose, c'est que ça fait au moins 7 à 8 ans qu'il n'a pas eu.
C'est vrai.
Vous allez faire un tour à Lévis, là, des grues, là, il y en a partout. Mais c'est vrai qu'à Saguenay, ici, c'est dur d'en trouver.
C'est vrai.
Ben, c'est la, il y en a une, là. Il y en a une, écoutez bien. Maintenant, vous savez que la dernière fois qu'il y en a une, c'est l'édifice Robin Thibault, là, à l'époque, à notre époque, à nous autres. Il n'a pas eu les sept ou huit dernières années. Fait que c'est quand même un petit détail que peut-être que l'économie va bien, puis l'économie va mieux. C'est très possible, puis que la relance de Saguenay commence à prendre forme. En tout cas, j'espère. Et on verra pour la prochaine campagne électorale. Il nous reste une année. Là,
oui, mais en novembre, il ne faut pas oublier aussi, là, on va sonder aussi la population
d'avoir un sondage
sur la satisfaction de la mairie, les orientations de la ville.
Oui, exactement. On verra.
Ça va dire beaucoup.
Regardez, moi, écoutez, je sais des sondages. Quand je me suis présenté, je partais avec 12-13% d'avance. Mm-hmm. Ça m'a coûté 1200$ sur un sondage semblable. Il était dans mes dépenses électorales. Puis tu arrives le soir du vote, puis tu fais pareil. Fait qu'on peut partir gagnant, puis finir perdant.
Ah oui,
tout à fait.
Ça peut tourner une campagne, ça peut être quand même très long.
Vous avez vu dernièrement aussi dans les nouvelles, là, parce qu'on va pour notre époque, Moment Factory. Ça, c'est une entreprise là, qui font de l'audiovisuel.
Oui.
Il y a l'animation là, extérieure.
Ah oui.
On avait
oui.
un programme, disons, pour la rivière au sort de Jonquière. Je ne sais pas s'il y a un conseiller de Jonquière qui peut finalement s'informer où s'en est rendu. Je sais que ça a été mis de côté. Tout ce qu'on avait commencé à préparer avait été mis de côté par l'administration qui nous a succédé. Maintenant, ça serait intéressant de regarder ça. C'est un programme son et lumière qui mettrait en valeur toute la rivière au sort. Puis, avec des gens pourraient actionner les activités avec leur iPad, leur téléphone iPhone. Et puis, je ne sais pas si l'administration actuelle est intéressée, mais ça ferait tout un beau programme pour les citoyens de l'arrondissement de Jonquière.
Ça fait longtemps, c'est vrai j'en avais entendu parler, Moment Factory, qui sont partout dans le monde. On l'a vu un peu avec l'éclairage de certains bâtiments. On voit le Mont-Jacques.
Drummondville, j'avais vu Drummondville, là, c'est une activité qui est faite par réseau. Puis en plus qu'aujourd'hui, Moment Factory, M. Pelladeau est rendu actionnaire minoritaire.
Ah.
Ça fait que ça va devenir de plus en plus intéressant pour des organisations québécoises.
Donc, c'est pas eux qui ont fait le spectacle à projection dans le port de Québec?
Oui, puis ils ont même participé aux Olympiques. Ils ont participé dans Super Bowl. C'est eux qui font les stages.
Je pense qu'ils ont fait de quoi aussi aux Zoo de Saint-Félicien, mais la dernière activité qu'ils ont faite, ils sont partout dans le monde. Hein?
Oui.
La dernière affaire qui s'est faite, c'est au village d'Antan à Drummondville.
À Drummondville, OK.
Des reportages là-dessus. Mais je sais que nous autres, on avait eu une soumission. On les avait rencontrés quelques fois là, avec notre directeur de l'époque qui travaillait chez nous à Promotion Saguenay, François Hens. Et on avait eu une soumission pour un beau projet. On a eu ça quelques mois avant les élections, mais Jean a décidé de se retirer. Donc, puis l'autre administration, ben écoutez, quand vous disiez que c'était l'administration Jean Tremblay qui avait mis ça sur pied, il fallait débosser, il fallait déconstruire, il fallait détruire. On n'avançait pas.
Hey, un dernier sujet, monsieur Harvey, on voulait parler un peu de la saga Pierre Fitzgibbon et Michael Sabia. Là, on commence à jaser de plus en plus d'Hydro-Québec avec le projet d'envergure de 150 milliards de dollars. Ça commence à faire de plus en plus jaser. Là. Où c'est qu'on s'en va? Comment, combien on va payer, nous, les contribuables?
Moi, je trouve ça intéressant que vous m'ameniez ce sujet-là parce que je vais vous dire une chose. Hier, les Québécois, peut-être trop focussés sur les élections américaines, beaucoup focussés sur les élections américaines, c'est passé de quoi à l'Assemblée nationale qu'on ne voit pas souvent. Un haut cadre, le dirigeant d'Hydro-Québec, qui critique publiquement les positions et la politique de son ministre, son ex-ministre qui vient de quitter cette semaine. Moi, j'aurais cru que Mme Fréchette l'aurait mis à sa place immédiatement. Il vient de prendre le contrôle d'Hydro-Québec. Il vient de dire, Hydro-Québec, c'est moi qui décide. Par contre, ce que Fitzgibbon a décidé au moment où il était ministre, ça s'est traduit par une loi. C'est le ministre de l'Énergie, de l'Innovation, qui décide en haut de 5 mégawatts de projet, en haut de 5 mégawatts, qui décide qui va avoir l'aide du gouvernement et qui va avoir l'aide d'Hydro-Québec.
Oui.
C'est sûr que le président directeur général, lui, là, c'était plus lui qui avait le gros mot. C'était plus le king. C'était le ministre qui prenait la décision. En démocratie, ça devrait être le ministre qui prenne la décision. Moi, je pense qu'il va falloir que quelqu'un le remette à sa place et il dise, oh là, le responsable là, de Hydro-Québec, là, c'est le gouvernement du Québec. C'est le premier ministre du Québec et c'est la ministre, maintenant, la ministre de l'énergie et l'innovation. Il ne faut pas qu'il laisse passer ça. Parce que c'est quasiment comme une dégradation de l'autorité gouvernementale.
Parce que ça va être déterminant, ce projet de loi et la suite des choses, parce que c'est quand même notre richesse, l'hydroélectricité. Si on est pour perdre ça, de ne pas aller de l'avant et de ne pas trouver un consensus puis faire plaisir à tout le monde, parce qu'on s'entend que c'est parti comme ça. C'est un projet de 150 milliards de dollars. Il va falloir trouver une manière de le payer, mais il ne faut pas se ruiner non plus.
Ben, ça va peut-être pas payer par l'augmentation des tarifs, parce que le gouvernement s'entête à dire, M. Fitzgibbon, c'était pas son sujet, lui disait que il allait avoir des augmentations de tarifs. Mais là, M. Legault dit non, c'est 3%, Mme Fréchette aussi. Et maintenant, écoutez, il faudrait que ça se paye. 180 milliards, ça se trouve pas en se clientant et en ramassant l'argent à terre. Il faudrait que ça se paye. Donc, ça va se payer comment? Par les taxes. Si ça ne se paye pas par les tarifs, parce que là, de plus en plus, Hydro-Québec donne moins d'argent au gouvernement du Québec. Fait qu'il va falloir la trouver. Là, on est en déficit de 11 milliards actuellement. Imaginez-vous donc, vous. S'il faut qu'on fournisse de l'argent à Hydro-Québec pour 180 milliards. Ah, ouais. 180 milliards de projets, là. Hey, c'est de l'argent, ça?
C'est de la grosse argent. Oui, absolument. Monsieur Hervé, c'est déjà tout le temps qu'on a, mais je pense qu'on a fait quand même le tour des sujets qu'on voulait discuter. On s'en regarde la semaine prochaine.
Yeah.
Il faut remercier. Bonne journée.
Très bonne journée, très bonne semaine. Et en ce beau mercredi, donc, on invite les gens à aller faire un tour. Je pense que c'est pas le gros bateau qui est venu lundi, qui est de retour aujourd'hui.
Je pense que oui.
Norwegian Joy, aller faire un tour donc, du côté de la baie. Il fait beau. Vous allez voir bien, bien, bien du monde. Dans quelques instants, les pattes nouvelles. Parlez de reliques.
Place des aînés devient une réalité. À coût abordable, le plus beau complexe de condos locatifs pour retraités autonomes en plein cœur de la zone Talbot, rue Sauvignon, Chicoutimi. Près de tous les services, condos 2,5, 3,5 et 4,5 avec stationnement souterrain, garage chauffé plus un lavoto, confort avec meubles, garde-robe, comptoir de granit, petit îlot et laveuse sécheuse directement dans la salle de bain. Les retraités autonomes adorent. La retraite agréable à l'année, place des aînés, réservée 418-812-0682.
Entendre mieux, ça change tout. Écoutez bien ce son. Vous ne l'avez pas entendu? Communiquez sans plus attendre avec le groupe Forget Audioprothésiste pour un dépistage auditif sans frais.
Prenez le contrôle de la route avec le Kia Sportage 2025 de chez Kia Harold Auto. Le plaisir de conduire intégral. Maintenant disponible chez Kia Harold Auto, 418-693-8050. Kia, du mouvement vient l'inspiration.
Pat Nouvelle.
Vous avez souvent entendu parler du Saint Graal.
Oui.
Qui est la relique la plus... Ben oui.
Diana Jones.
La plus recherchée de toutes les reliques, mais il y en a qui existent. Ben, disons pour vrai.
On pense qu'ils existent.
Ouais. Comme la couronne d'épines de Jésus, qui n'a plus d'épines dessus, là, parce qu'ils ont donné des épines un peu partout dans le monde,
ouais.
Qui est à Notre-Dame de Paris en France. T'as,
le cœur d'André, il s'en était pas un, c'est un artefact, une relique.
Non, elle n'est pas considérée comme une relique.
Okay.
Les reliques, ce sont des choses qui sont puissantes, qui guérissent, oui. qui ont des pouvoirs.
Okay.
Y en a une qu'on a retrouvée, c'est un clou dans un pied.
Du Christ?
Non, évidemment. C'est n'importe qui, probablement, mais eux autres, ils disent que oui. Ah. C'est, okay. Mais en tout cas, il y a aussi plein d'autres qu'on ne connaît moins.
Ben oui.
Comme par exemple, qui sont disparus, évidemment, le voile de Véronique. Véronique, qui est une femme qui a utilisé son voile pour essuyer le sang et la sueur de Jésus, alors qu'il marchait avec sa croix puis qu'il est tombé.
Oui.
Puis là, bon, on dit que sa face est restée imprimée sur le voile, évidemment, parce que c'est Jésus.
Tu ne trompes pas avec le suaire, là, non?
Non, c'est pas la même chose. C'est vraiment le voile de Véronique qui n'est pas la même chose. D'ailleurs, le voile aurait été transmis à l'apôtre Jean et serait arrivé à Rome en 1199. Il aurait été volé au 16e ou 17e siècle. Et certains prétendent qu'il serait à Rome. Du côté de Manopello en Italie, mais on ne l'a pas retrouvé.
Ah ben.
L'Arche d'Alliance?
Ben oui.
Que Indiana Jones, lui, a retrouvé. Il s'agirait évidemment d'un coffre en bois recouvert d'or dans lequel étaient censés être conservées les deux tablettes des 10 commandements. On dit que quand on ouvrait ça, ça libérait une arme qui était extraordinaire et très dangereuse. On dit qu'il était conservé par les Israélites dans le temple de Jérusalem, mais que le siège mené par Nabucodonosor II en 587 avant Jésus-Christ, il aurait disparu à ce moment-là. Il y a plusieurs endroits qui auraient été cités par-ci, par-là, la colline de Tara en Irlande, l'Éthiopie, une grotte dans les montagnes en Afrique, sous le dôme du rocher en Israël, où se trouvait le premier temple. Bref, on n'a jamais retrouvé cette Arche d'Alliance, si elle a existé, évidemment.
Oui.
Il n'y avait pas que les tablettes des 10 commandements dans l'Arche d'Alliance. Il y avait aussi deux autres reliques, dont le bâton d'Aaron. Aaron, qui est le frère de Moïse, qui avait une sorte de pouvoir magique, qui aurait transformé une canne en serpent. Cette canne-là, le bâton d'Aaron, évidemment, est trouvable aujourd'hui, elle aussi. Le pot de Man.
Vous êtes un gros... ça devait être gros comme Arche d'Alliance. Mettre un bâton, là.
On ne sait même pas si elle existait. Fait que je ne pourrais pas dire, mais c'est peut-être un petit bâton. On ne sait pas. Il est disparu. Donc, le pot de Man, c'est une jarre de Man qui se trouve également dans l'Arche, qui était une nourriture que Dieu fournissait aux Israélites lorsqu'ils étaient dans le désert pendant les 40 ans de l'Exode.
OK.
Donc, tu sais, une Man. Tu sais, quand on dit, il y a la Man.
Oui.
Il y en a, sans arrêt.
Il y en a, ça n'arrête pas.
C'est pas comme les mouches, on appelle ça de la Man, tu sais.
Non. Tu sais l'expression?
Oui.
La Man, une jarre de Man. Donc, nourriture qui arrive sans arrêt.
C'est vrai.
OK.
Elle n'a pas existé, évidemment. Non. La vraie croix de Jésus.
La vraie?
Également appelée Sainte Croix. Donc, celle sur laquelle Jésus aurait été crucifié. Elle aurait été découverte par l'impératrice Hélène en 327, la mère de Constantin, celui qui a fait la création de la religion comme on la connaît aujourd'hui, qui a pris les 4 évangiles. Okay. Donc, elle, il a envoyé sa mère à Jérusalem. Il dit, va nous trouver le plus possible d'artefacts de Jésus. Mm-hmm. Elle aurait trouvé la croix complète. Drôle d'adon.
Taguée toute.
Et elle a pris des parties. Puis elle s'est mise à séparer ça. Puis elle a envoyé ça un petit peu partout pour faire des alliances.
Okay.
Les Perses. Après ça, les croisades sont arrivées. Ils en ont pris des morceaux. Donc, pas mal tout le monde et toutes les églises qui ont un petit morceau de bois disent qu'ils ont une partie.
Une partie de la croix.
De la croix. Mais en même temps, très difficile de vérifier.
Ouais.
Parce que, écoute, ils pouvaient crucifier 1000 personnes en même temps d'un coup.
Ben oui.
Fait que des croix, il y en a en masse. Donc, très difficile de savoir si c'est vraiment la bonne. Mais il y en a tellement eu des fausses qu'aujourd'hui, ils ont calculé qu'il y a plus de morceaux de bois.
Faux?
Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a trop de morceaux de bois pour faire une croix complète.
OK, là, tout ça, si on le met ensemble...
Ça fait plus qu'une croix.
Bonne,
donc, il y en a beaucoup des faux, évidemment.
Oui, c'est sûr.
Répertorier ça, pendu.
Exact. La seule qu'on pense authentique serait celle qui est exposée dans l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem et la basilique de la Sainte-Croix de Jérusalem à Rome, qui seraient les plus authentiques ou les plus proches de ce qui pourrait ressembler à la vraie croix de Jésus. C'est la petite église, là, où le tombeau de Jésus serait.
Ouais, serait.
D'autres qui ont existé, une relique qui a existé pour vrai, mais qui est disparue pour vrai, parce que c'est plus près de nous.
Okay.
Les biens de Jeanne d'Arc, qui a été brûlée au bûcher en 1431, va être canonisée comme sainte. Elle ne savait pas écrire, donc évidemment, elle faisait écrire ses lettres par d'autres, mais elle les a signées. Et l'une de ces lettres-là contenait une mèche de ses cheveux.
Hein?
Mais elle a disparu au 19e siècle.
Oh!
Parce qu'on l'avait, mais malheureusement, elle est disparue au 19e siècle. Son chapeau a lui été transmis de génération en génération, mais il a été brûlé par les révolutionnaires en 1792.
Ah!
L'Arche de Noé.
L'Arche, ben oui.
Si, elle aussi, elle a existé. Parce qu'il y en a encore qui continuent de la chercher. Il y en a qui pensent l'avoir trouvée du côté d'un pays musulman, là, sur une montagne. Là. Il y a quelque chose qui ressemble à un bateau. C'est probablement juste un bateau viking ou pirate ou n'importe quoi. Mais eux disent que c'est l'Arche de Noé.
C'est l'Arche de Noé.
Mais si tu regardes la grandeur, il ne rentre pas grand animaux là-dedans. Même pas sûr que tu es capable de rentrer un éléphant.
Ouais, c'est ça, parce que
ça marche pas. Là.
Par contre, le déluge, il y en a eu.
Il y en aurait
pas un grand déluge là, qui a recouvert la planète, mais on se rend bien compte en faisant les strates de pierre, de terre, on se rend bien compte, oui, il y a eu des déluges ici et là, ça a tué beaucoup d'humains, etc. Mais le mont Arara, c'est ça que je cherchais, en Turquie. C'est là qu'on dit qu'on aurait trouvé l'Arche d'Alliance, l'Arche de Noé. Il y a une autre expédition en 59 qui aurait affirmé que l'Arche se retrouverait sur le site de Dorupinar, sur le sommet du mont Arara.
OK.
Les deux, on ne
mais
on
a pas un gros pas. Bateau déjà là. Fait que,
non, ben, c'est ça, ça ne fonctionne ça pas tellement. Pas. Un qui me fait rire, que je ne savais pas qu'il existait, c'est quand on dit qu'ils ont tout gardé de Jésus. Ils ont vraiment tout gardé parce que Jésus est un juif.
Ah, la petite peau.
Non.
Ben oui, le Saint Prépuce. Ben parce qu'il a été circoncis. Oh, on aurait gardé son prépuce.
Ils ont gardé ça pendant... Je crois qu'il meurt 30 quelqu'un.
Semble-t-il. Et également appelé Sainte Vertu ou Saint Vœu, plusieurs églises européennes l'auraient détenu. Ainsi que le pape Léon III, d'après un document qui remonte à 1527, c'est Catherine de Valois, l'épouse d'Henri V, qui en était propriétaire.
Ben voyons!
La relique a disparu et réapparu 30 ans plus tard, avant de disparaître définitivement en 1983.
Ben, c'est une bonne chose.
Il y a à peine 40 ans, là.
Ben, absolument.
C'est une bonne chose, finalement, je pense.
Oh, my disparu. God!
Fatima, le miracle de Fatima a eu lieu, on se rappellera, lorsque la Vierge Marie est apparue aux trois jeunes enfants, là, Jacinta, Francisco, Marto.
Elle pleurait, là?
Non, pas celle-là. Non, c'est vraiment l'apparition, là, trois fois là, qu'elle a laissé les prédictions.
Parce
là,
que je parle, que tu parles, c'est la Salette.
Ouais. La Salette, oui, c'est ça.
Mais leur cousine Lucia de Santos a elle vécu jusqu'à l'âge de 97 ans.
Hey.
Et ils sont maintenant des saints. Donc, les reliques en question, ce sont des morceaux de vêtements d'enfants qui ont été volés lors d'une tournée de pèlerinage à travers l'Italie. Donc, les vêtements que ces enfants-là portaient lors de l'apparition de la Vierge Marie, qui étaient vus comme des reliques, ont été volés, donc sont disparus aussi. Mmh. Jean-Paul II avait laissé quelques reliques avant sa mort, sachant qu'il allait être canonisé rapidement.
Ouais.
Donc, il avait laissé le tissu sur lequel il s'est fait tirer. Donc, il y avait du sang sur lui. Et il avait même laissé une fiole contenant des gouttes de sang du pape qui ont été volées en 2020 dans une cathédrale de Spoleto en Italie. Il y a quelqu'un qui a chez eux le sang du pape Jean-Paul II.
Le sang du pape Jean-Paul II. Parce que là, c'est vraiment après. On sait que c'est quand même vrai.
Lui, il les a laissés de façon volontaire en disant ce sera mes reliques pour quand je serai disparu. Comme ça, coupez-moi pas un doigt ou ramassez-moi pas un morceau d'orteil comme vous avez fait avec d'autres. Sinon, il y a des trésors catholiques disparus aussi. Dans un rouleau de cuivre vieux de 2000 ans, on a trouvé une carte au trésor. C'est un parchemin qui contient des informations sur pas moins de 63 endroits où on pourrait trouver des trésors d'or et d'argent.
Hey.
Sauf que le problème, c'est que tous les lieux indiqués dans le document n'existent plus.
Oh.
Personne ne sait vraiment où sont les endroits. Et c'est des textes. C'est pas vraiment une carte, c'est vraiment des textes. Donc, ça fait référence, par exemple, au réservoir de Manos ou le portique de la tombe de Zadok. Mais personne ne sait où c'est.
OK, il n'y a pas de...
Donc, il y a 63 trésors qui sont dans ce rouleau-là que les gens essayent de retrouver, mais que personne n'est capable de retrouver parce que, justement, les noms n'existent plus.
Ah, ben...
Moi, je trouve ça incroyable que ces reliques-là aient pris autant d'importance dans la religion quand des fois, ça peut être n'importe quoi, tu sais.
C'est souvent prépuce, n'importe quoi, le seul.
Le prépuce du Christ, que tu sais, que le monde savait qu'à la 0-1, que là, ce prépuce-là. Non, tu sais.
Le Saint-Suaire, ça a été prouvé. C'est des années 1400 quelques qui était fait. C'est prouvé. Le carbone 14, on a vu, il date pas de Jésus-Christ.
L'importance qu'on donnait à ça.
Oh là là.
Tu sais, le Saint Jean-Paul II, je ne sais pas si ça va changer dans la vie de quelqu'un, là.
Ben, c'est parce que.
Il y en a qui vont dire c'est béni, puis tu es malade, mais tu as une goutte
mais
de Jean-Paul
II. Mais la force du.
Ah oui,
du mental.
Mental, c'est sûr.
Quand tu y crois, tu sais, les gens qui vont à Saint-Anne, là, tu vois le paquet d'affaires qu'il y a là. C'est des gens qui y croient tellement que ça les guérit.
Qui ont marché.
Mais c'est pas obligé d'être religieux.
Pas nécessairement.
Tu peux le croire. À un moment donné, ma tante, il y a très longtemps, peut-être une quarantaine d'années, a eu un cancer de l'utérus. Puis, elle ne voulait pas. Elle dit non. Non.
Elle accepte pas.
Ça n'arrivera pas. Je vais guérir. Je vais guérir de ça, je ne mourrai pas de ça. Arrive l'opérer pour.
Et
puis le cancer. Il referme, il dit ben écoute, je comprends pas, il n'y a plus rien.
Ça va bien.
On est désolé, la coupure, mais il n'y a plus rien.
La positivité. Le positivisme. Tu sais, quand on dit les gens s'en sont sortis d'une maladie très. Ouais, mais il était positif. C'est une grosse partie de la guérison
tellement.
Vient du positif.
Tellement.
Oui, tout à fait.
Merci beaucoup, Pat.
Plaisir.
C'est intéressant.
7h56, les nouvelles avec André.
Les nouvelles au 92.5.
Vous souhaitant un bon mercredi, oui, milieu de semaine, 11 septembre. Bonjour tout le monde, ici André Deschênes pour l'actualité. D'abord, allons-y avec le Bureau des enquêtes indépendantes, le BEI, qui a terminé son enquête sur la mort d'un étudiant guinéen qui avait été abattu, on s'en rappelle, par des policiers de Saguenay le 28 novembre 2023, l'année dernière, sur la rue des Hospitalières à Chicoutimi. Et en lien avec ce rapport, bien, la Direction des poursuites criminelles et pénales ne déposera aucune accusation contre les policiers de Saguenay. Selon le DPCP, les deux policiers qui avaient été impliqués dans l'événement qui ont fait feu n'ont commis aucune infraction criminelle. L'emploi de la force était justifié en vertu de l'article 25 du Code criminel. Rappelons que le 28 novembre dernier, ce qui s'était passé, c'est qu'un appel avait été logé au 911. Un homme mentionnait avoir été poignardé dans son logement. Un autre appel avait été fait au SPS quelques instants plus tard, indiquant qu'un homme qui marchait dans la rue, torse nu, avec un couteau entre les mains, et à l'arrivée des policiers, l'individu couvert de sang s'est mis à foncer sur eux. Mamadou Saliou Bal a été touché par une arme à impulsion électrique, un taser gun, mais sans effet. L'individu a alors continué sa course vers les policiers qui ont ouvert le feu à 5 reprises. Et malgré des manœuvres de réanimation, l'individu est décédé. Et selon cet article 25 utilisé dans cette enquête, on y dit qu'un policier peut, s'il agit de foi, sur la foi de motifs raisonnables, utiliser une force susceptible de causer la mort ou encore des lésions corporelles graves, s'il croit que c'est nécessaire pour la sécurité du policier ou encore la sécurité des personnes qui sont autour. Dans ce dossier, mentionnons que le BEI avait recueilli le témoignage de 9 témoins civils. Il a aussi analysé les faits rapportés par les policiers en relation avec l'intervention. Les informations qui avaient été obtenues pendant l'enquête avaient aussi permis de conclure que les obligations des policiers impliqués et du directeur du service de police était prévu au règlement sur le déroulement des enquêtes. Alors, comme la DPCP a décidé de ne pas porter d'accusation, le Bureau des enquêtes indépendantes a également déclaré que le dossier était maintenant clos. Maintenant, la soupière de Jonquière est en manque de bénévoles. On connaît tous la soupière au sous-sol de l'église Saint-Raphaël à Jonquière. On y sert des repas chauds pour 1 $ seulement. Bien, on manque de monde pour servir les repas, pour accueillir les gens, pour faire un peu de vaisselle aussi. Le président de la soupière de Jonquière, Bruno Cormier, rappelle d'ailleurs la mission de l'organisme et parle aussi de la clientèle qu'on y accueille à tous les midis.
C'est toute personne qui a des problématiques au niveau monétaire, qui ont faim. La soupière de Jonquière est là pour les recevoir. Ça se passe sur l'heure du midi. On reçoit également les gens qui ont de la difficulté à joindre les deux bouts, donc ils peuvent s'assurer d'un bon repas au moins une fois dans leur journée.
Et pour les gens, en passant, qui veulent donner leur nom, bien, vous pouvez contacter la soupière au 547-0976. Maintenant, scène américaine. Un vent de changement se dessine-t-il aux États-Unis? Le débat présidentiel américain qui a opposé hier soir les candidats Kamala Harris et Donald Trump a donné lieu à toute une soirée, alors que la majorité des observateurs politiques, les éditorialistes également, s'entendent à dire que la candidate démocrate semble avoir remporté l'importante étape.